Tout à l'heure, nous avons chanté Je te suivrai, Jésus. Quelles étaient déjà les paroles? Jésus, roi des rois, je te suivrai, c'est ça? Il y avait des paroles qui disaient en résumé ça. Eh bien, aujourd'hui, la prédication va nous faire redécouvrir un texte qui aborde finalement cet essentiel de la foi chrétienne, de la vie chrétienne, de la marche avec Jésus. Jésus, je te suivrai. C'est un texte que vous connaissez peut-être, des choses qui seront pas forcément nouvelles pour vous, mais comme le levain dans la pâte a besoin de temps et d'être remis jour après jour pour que la pâte monte, de la même manière, ce texte va pouvoir aussi, et à moi et à vous, bien sûr, nous permettre de faire continuer de lever cette pâte que sont nos vies pour que le ferment du Seigneur prenne toute sa place dans nos vies et qu'il nous nourrisse encore et encore, jour après jour. Je vous propose de lire aujourd'hui dans l'Évangile de Luc, au chapitre 14, les versets 25 à 35. Luc 14, versets 25 à 35. Une foule immense faisait route avec Jésus. Il se retourna et dit à tous, Celui qui vient à moi doit me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même à sa propre personne. Sinon, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour me suivre ne peut pas être mon disciple. Si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a assez d'argent pour achever le travail. Autrement, s'il pose les fondations sans pouvoir achever la tour, tous ceux qui verront cela se mettront à rire de lui en disant, Cet homme a commencé de construire mais a été incapable d'achever le travail. De même, si un roi veut partir en guerre contre un autre roi, il s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter son adversaire qui marche contre lui avec 20 000 hommes. S'il ne le peut pas, il envoie des messagers à l'autre roi, pendant qu'il est encore loin, pour lui demander ses conditions de paix. Ainsi donc, ajouta Jésus, aucun de vous ne peut être mon disciple s'il ne renonce pas à tout ce qu'il possède. Le sel est une bonne chose, mais s'il perd son goût, comment pourrait-on le lui rendre? Il n'est alors bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors. Écoutez bien si vous avez des oreilles pour entendre. Amen. La version que j'ai lue nous dit Celui qui préfère son père, sa mère, ses enfants, sa famille, son frère, à Jésus n'est pas digne d'être son disciple. Alors le texte littéralement est beaucoup plus fort. Il utilise un terme, c'est une hyperbole, c'est pour ça que la traduction est tout à fait juste et légitime et nous permet de mieux comprendre. Mais le terme qui est utilisé, c'est quelque chose de très fort, c'est celui qui n'a pas de haine, qui ne haït pas, qui ne hait pas son père, sa mère, ses enfants, son frère, etc., sa femme, sa famille, son mari. L'idée qui est utilisée par Jésus ici, c'est pas qu'il faut haïr les membres de sa famille, bien au contraire. Tout l'évangile nous appelle à l'amour du prochain et en particulier du plus proche prochain aussi. Donc il ne s'agit pas d'un message de haine ou de rejet de sa famille. Non, il s'agit de quelque chose qui vient choquer les esprits pour les marquer. Une hyperbole, c'est une figure stylistique qui permet d'interpeller, de dire, mais là, il y a quelque chose qui me choque, qu'est-ce que ça veut dire? Bien sûr, Jésus appelle à aimer sa famille, mais par ce mot qu'il utilise, et finalement, cette première partie de son enseignement que nous avons lu, il vient mettre le doigt sur la préférence, effectivement. Est-ce que pour Jésus, je suis prêt, s'il le faut, à renoncer à ma famille? Non pas que Dieu nous demande de renoncer à notre famille, mais dans le contexte où ce texte est reçu, il y a bien le risque que la famille rejette les disciples de Jésus. Et que par conséquent, le disciple soit face à un choix. Dois-je plaire à ma famille en renonçant à Jésus? Ou dois-je choisir de suivre le Seigneur, coûte que coûte, tout en essayant d'aimer ma famille et en l'aimant, mais si je suis rejeté, eh bien, choisir simplement de rester fidèle à Jésus. Alors, nous avons le privilège pour beaucoup d'avoir des familles qui aiment le Seigneur, qui nous aiment aussi, et nous sommes encouragés au travers de cela. Et ainsi, dans les familles où la foi est commune, eh bien, c'est une bénédiction. Et l'amour du Seigneur peut être d'autant plus manifesté dans ces relations. Quoique des fois, il faille bien sûr aussi demander pardon l'amour implique aussi que des fois, ben, quand on a blessé l'autre, on demande pardon. Néanmoins, ici, Jésus montre l'importance de mettre sa propre personne au centre de nos vies. On peut être face à bien des choix. Et la question qui se pose est, est-ce que dans tous mes choix, je veux que Jésus, que Dieu soit au centre? Jésus nous appelle à l'amour. Jésus nous appelle à l'amour avant tout de lui, de Dieu et du prochain. Et si on met finalement les autres à la place de Jésus, à la place de Dieu, il y a un déséquilibre. C'est comme si finalement les images ou les paraboles que Jésus utilise, ensuite, c'est comme si nous ne mesurions pas l'engagement que Jésus nous demande, que nous commencions à construire une tour, mais finalement sans pouvoir la finir. Ou que nous étions comme un roi qui se dit, avec quelques soldats, je vais pouvoir vaincre une grande armée. Jésus, en fait, invite ses disciples à mesurer l'engagement, tout simplement, que cela demande d'être son disciple. De dire oui, Seigneur Jésus, je veux juste t'appartenir, que tu sois au centre de ma vie et je veux t'obéir. Quelles que soient les situations que je peux rencontrer, l'opposition que je peux rencontrer, parfois de la part de proches, parfois non, les proches des fois sont des personnes qui nous encouragent dans la foi et c'est une bénédiction. Mais quel qu'il en soit, quoi qu'il en soit, je veux, Seigneur Jésus, que tu sois au centre. Et ainsi Jésus continue en disant, celui qui ne veut pas se charger de sa propre croix n'est pas digne d'être mon disciple. Jésus est en train de dire qu'il y a un coût, que cela peut, dans certains cas, même amener à la persécution, voire la mort. Bien des chrétiens au premier siècle ont été persécutés et en sont morts. Et ce texte pouvait les rejoindre en leur rappelant Jésus a porté pour eux leurs péchés. Il a été crucifié. Mais si Jésus a donné sa vie pour nous, nous de même, notre propre vie, nous sommes appelés à être prêts à la laisser pour le Christ. Alors, la parole est forte. La parole peut même faire peur. C'est vrai qu'en période de persécution, nous pouvons, ou les chrétiens, parce qu'il y a des persécutions de par le monde aujourd'hui encore, les chrétiens peuvent en payer de leur vie. Et cela, c'est vrai, c'est un engagement aussi, Et nous ne sommes pas toujours sûrs de savoir si face à la persécution, nous pourrions tenir. Néanmoins, nous pouvons faire confiance au Seigneur qu'il sera avec nous. Parce que lui-même a porté sa propre croix. Et même quelqu'un l'a portée pour lui parce qu'il n'était plus capable dans sa force humaine de la porter. Et Jésus sera toujours là, lui qui est ressuscité, à nous aider à porter, si nous le devons, notre croix jusqu'à la mort. Mais cela, finalement, pour nous qui ne sommes pas persécutés jusqu'à la mort, nous rejoint aussi autrement et nous interroge sur finalement notre propre engagement. Est-ce que nous sommes prêts à être disciples de Jésus et à le suivre dans notre vie? Dans notre vie de tous les jours, de dire oui Seigneur, je veux que tu sois le roi dans ma vie. La seconde parabole nous parle d'ailleurs d'un roi. De quelqu'un qui est roi de son royaume et qui se rend compte qu'il y a un roi en face à qui il doit des comptes, qui est plus grand, plus puissant et qu'il doit se réconcilier avec lui. Nous reviendrons là-dessus tout à l'heure. Mais venons-en à la première parabole, celle de la tour. Jésus, au travers de cette parabole, invite ses disciples à mesurer le coût et l'engagement que cela a d'être disciple. Dans un autre texte de l'Évangile, il dit « Celui qui est mon disciple ne doit pas regarder en arrière comme un laboureur qui ne doit pas regarder en arrière. » Parce que si on laboure comme on le faisait à l'époque avec une charrue et des bœufs et qu'on regarde en arrière, eh bien, on tourne la charrue et donc le sillon qui sert à ensuite à planter dans un sens qui ne sera pas droit et on va dévier finalement de la ligne qui permet ensuite d'ensemencer. Et de cette manière-là, Jésus montre l'importance finalement de renoncer à sa vie passée, d'accepter d'avoir une vie nouvelle et de vivre pour cette vie nouvelle, pour Dieu, en renonçant à cette vieille manière de vivre passée. Ainsi, Jésus invite à mesurer l'engagement que nous prenons en tant que disciples, de vivre pour Dieu et non plus pour nous-mêmes. Non plus pour nous-mêmes, pour notre propre chair, pour nos propres désirs, pour notre vieille nature qui aimait les choses qui déplaisent à Dieu. Vivre pour soi-même. Alors, vivre pour soi-même, dans les lettres de Paul, il ne s'agit pas de prendre soin de son corps ou de pouvoir avoir des plaisirs qui sont des dons de Dieu. Il s'agit en fait de vivre selon la mauvaise manière de vivre, une manière de vivre selon ce que l'apôtre Paul appelle la chair, une manière détournée de Dieu de vivre, une manière qui est contraire à la volonté de Dieu, à la volonté du Seigneur, de l'Esprit-Saint. Jésus ainsi nous invite non seulement à prendre conscience de cet engagement, mais à vivre aussi d'une telle manière, à vivre de cette vie nouvelle. L'apôtre Paul, dans la lettre aux Romains, nous parle de la crucifixion de Jésus comme quelque chose qui vient aussi nous rejoindre parce que nous sommes nous-mêmes morts en Jésus-Christ. Notre vieille manière de vivre est morte en Jésus-Christ pour que nous puissions vivre d'une manière nouvelle. Et ainsi, Jésus veut que nous vivions en lui, par lui et pour lui. C'est alors que nous pouvons comprendre aussi cette dernière parabole, celle de l'armée royale. Jésus nous présente un roi qui a un certain nombre de forces armées et qui se demande s'il peut vaincre un roi plus puissant qui vient à sa rencontre. Mais il doit régler le problème avant que le roi soit là. Parce que s'il n'a finalement pas la capacité de diriger son propre royaume ses propres armées face à la puissance de ce roi qui vient, eh bien, il a besoin de se réconcilier avec ce roi qui vient avant son arrivée, avant qu'il ne soit trop tard, parce que les deux armées vont s'affronter et ce sera trop tard pour dire, bon, ben, en fait, on pourrait faire la paix, non? À partir du moment où la bataille est engagée, les pertes sont là. C'est donc avant que la bataille commence que Jésus invite finalement ou conseille ce roi d'aller rencontrer l'autre roi, ce roi des rois plus puissant, pour se réconcilier. De la même manière, Jésus, en fait, nous invite, nous, en tant que disciples, à reconnaître que Jésus est le roi des rois et que nous-mêmes, par nos propres forces, en nous érigeant en roi de nos vies, finalement, nous nous opposons au vrai roi, à celui qui est vraiment souverain sur nos vies et qui veut établir son règne dans nos vies. Jésus nous invite donc à ne pas attendre le retour du roi, le moment où ce sera trop tard finalement pour accepter sa souveraineté dans nos vies. Mais de le faire alors qu'il est encore temps. Et de se réconcilier avec ce roi. Ce roi qui, en réalité, est venu une première fois parmi les hommes et les femmes, les êtres humains, pour cette réconciliation. C'est Jésus qui est venu non pas pour juger le monde, mais pour sauver ceux qui croient en lui. Et mourir à la croix, afin que nous puissions avoir une vie transformée, une nouvelle manière de vivre. Et de jour en jour, transformé par son esprit, ressembler toujours plus à sa personne, à son caractère, à son amour. Certes, nous ne sommes pas parfaits, mais en reconnaissant Jésus comme le roi de nos vies et en désirant que son règne s'établisse sur chaque partie de nos vies et en les lui remettant encore et encore et jour après jour, eh bien, c'est comme le ferment qui, jour après jour, est remis dans la pâte et fait lever la pâte. Jour après jour, il nous travaille toujours plus pour que son règne se manifeste toujours davantage dans nos vies. Pourquoi? Parce que nous acceptons qu'il soit le roi, qu'il soit au centre de nos vies, qu'il soit ce roi qui règne sur nos vies et à qui nous remettons encore nos vies, à qui nous demandons encore pardon pour les fois où nous péchons, mais à qui aussi nous avons, envers qui nous avons confiance. Confiance en cette grâce, en ce pardon qui nous renouvelle jour après jour. Il renouvelle le pardon envers nous. Mais il nous renouvelle intérieurement aussi par sa vie, jour après jour. Jésus termine, on pourrait dire, cette parabole en disant, ainsi donc, aucun de vous ne peut être mon disciple s'il renonce pas à tout ce qu'il possède. Et par là, Jésus est en train de dire, non pas qu'on doit vendre tous nos biens, et être pauvre et ne plus avoir rien, mais renoncer à être le possesseur de nos vies et accepter que désormais c'est lui le roi et le possesseur de nos vies et qu'il est un bien meilleur gérant et maître que nous-mêmes. Parce que lui est un maître bon, un roi qui prend soin de ses sujets, un roi qui nous fait citoyens de son royaume et non pas des mendiants dans son royaume. Un roi qui certes demande allégeance, une allégeance pleine et parfaite. Mais parce que cette allégeance pleine et parfaite nous rend à nous-mêmes ce qu'il voulait que nous soyons au départ, parce que c'est lui qui nous a créés et qui sait ce qui est bon pour nous. Ainsi, comme C.S. Lewis le dit dans un de ses livres, en abandonnant qui nous sommes à Dieu, Dieu nous rend pleinement à ce que nous sommes. Et c'est en abandonnant entre ses mains qui nous sommes, nos vies, qu'alors la liberté qu'il nous donne devient vraiment pleinement ce qu'il voulait au départ. Une liberté où le bien voulu par Dieu peut être manifesté. Mais le texte que nous avons lu ne se termine pas là. Versets 34 et 35. Le sel est une bonne chose, mais s'il perd son goût, comment pourrait-on le lui rendre? Il n'est alors bon ni pour la terre, ni pour le fumier, on le jette dehors. Écoutez bien si vous avez des oreilles pour entendre. Luc, inspiré par l'Esprit, place ce texte-là juste après ce passage où Jésus dit que nous avons besoin qu'il soit au centre de nos vies. Cela veut dire que si Jésus est au centre de nos vies, cela a aussi un impact autour de nous. Si nous renonçons à vivre selon notre vieille nature comme le monde vit, eh bien nous serons différents du monde, de la manière de vivre de ce monde, et nous ferons une différence dans ce monde. Ainsi, le fait de mettre Christ au centre de nos vies change nos attitudes, notre manière d'être, nos paroles. Et cela, c'est le sel de la terre. En fait, j'aime beaucoup cette manière de présenter l'être humain comme sel de la terre quand le Christ est en lui, dans la manière d'agir avec les autres, d'être en relation, dans son attitude, dans ses paroles aussi, bien sûr. Il y avait plusieurs pratiques pour saler la nourriture à l'époque, mais une des pratiques, c'était de prendre une pierre, par exemple de la mer, sur laquelle il y avait des cristaux. Et on utilisait ce sel pour le plonger dans la marmite et le retirer ensuite. Et ainsi, la pierre diffusait son sel pour saler le plat, pour saler la marmite, le bouillon. Et finalement, ce n'était pas la pierre qui salait, mais bien le sel qui salait. Et au bout d'un moment, quand la pierre n'avait plus de sel, bon, ben, on pouvait la jeter et on cherchait une autre et on la salait. Alors la bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes pas des pierres dont le sel s'épuise. Si nous avons ce sel en nous, et ce sel ne vient pas de nous, c'est le Christ qui est notre saveur. Ce sel qui fait que nous soyons des pierres à sel qui continuent de saler les aliments. Ce n'est pas notre propre sel, sans quoi nous nous épuiserions, sans quoi nous perdrions notre saveur. C'est le Christ en nous, à la première place, qui nous donne continuellement, jour après jour, le sel dont nous avons besoin pour être sel et lumière autour de nous. Et ainsi, quand Jésus dit, si le sel perd sa saveur, il est aussi en train de dire, si le Christ n'est pas au centre de nos vies, si nous renonçons finalement à ce qu'il soit au centre, eh bien, nous perdons aussi notre goût. Ce n'est pas un plan d'évangélisation, et pourtant, c'est une manière toute simple de pouvoir vivre au quotidien cette saveur du Christ pour les autres aussi. Parce que nous sommes saveurs du Christ autour de nous. Nous sommes l'Église dispersée. Et si les gens ne viennent pas à l'Église, ils rencontrent l'Église au travers de chacun d'entre vous. Et au travers de chacun d'entre vous, ils rencontrent aussi le Christ. Et si ainsi le Christ vit en vous, pas besoin de faire moult efforts. Simplement apprenons à vivre le Christ en nous. Et cela même diffusera de la saveur. Alors bien sûr, nous pouvons aussi faire de l'évangélisation, etc. Mais notre manière de vivre, notre manière d'être en Christ est déjà saveur autour de nous. Je vous invite à un court temps de silence pour vous remettre devant Dieu et répondre à la manière dont vous avez besoin de répondre à ce texte biblique dans vos cœurs. Seigneur, nous ne pouvons pas être sel par nous-mêmes. Mais merci parce que toi, tu es ce sel qui ne s'épuise pas. Et simplement par la foi, nous te disons encore, sois au centre de nos vies. Nous sommes bien imparfaits, mais nous te voulons comme roi, tout simplement, afin que tu nous apprennes à marcher dans tes voies. Seigneur, c'est tout simplement cet amour que nous t'offrons, dans notre limite, notre imperfection, mais nous te reconnaissons comme roi et nous t'aimons. Alors, s'il te plaît, continue de manifester ta saveur dans nos vies. Amen.
Amen.